Le goût de M.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût pour y répondre cette semaine et avant de marquer une petite pause hivernale, puisque le goût de M reprendra ensuite le 12 janvier, je vous emmène à la rencontre d'Antoine Decaune. Homme de radio et de télévision, figure historique de Canal+, incorrigible, amoureux du rock, mais aussi acteur, auteur, réalisateur, scénariste et producteur. Depuis 40 ans, Decaune s'étend de ton, irrévérencieux, parfois potache, un débit ultra rapide, un charme, une légèreté face à l'existence et une infatigable envie de transmettre ses goûts, ses déconnades, ses enthousiasmes. Il vient de publier chez La Martinière Pixie, une douce addiction, un livre dans lequel il raconte comment il est tombé raide dingue de ces petites figurines en plomb qui représentent bon nombre des héros de son enfance, les Gaston Lagaffe et les Tintins. Alors on va en parler dans cet épisode, ainsi que de son goût et de son parcours bien sûr. Antoine nous a donné rendez-vous dans le centre de Paris, entre l'Opéra et les Tuileries, un petit immeuble entre deux boutiques. On sonne.
Oui.
Oui, bonjour, c'est pour M Le Monde.
Oui, c'est au 5e.
Ah super, on arrive. Je pense que c'est là. Entrez. Ah, c'est là. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Faites le son, vous, non? Vous avez ma perspicacité?
Où est-ce qu'on est, Antoine, ici?
Sommes de mon bureau.
C'est un grand bureau?
C'est un grand bureau, oui. Ouais. Bah, c'est un grand bureau, j'ai besoin de beaucoup d'espace, moi, parce que je fais des réunions. Je travaille tout seul, mais je travaille aussi en groupe.
C'est l'espace qui vous ressemble, ici?
Oui, certainement, parce qu'il n'y a que des choses qui sont très personnelles, mais qui sont liées au travail. Il y a beaucoup de livres, mais j'ai deux bibliothèques. En fait, j'ai une bibliothèque chez moi, des livres que je lis, de littérature pure. Et là, c'est tout ce qui a rapport plus ou moins étroit avec la musique, le cinéma, la bande dessinée.
Alors, vous le décririez comment, cet espace, pour quelqu'un qui nous écoute?
C'est tout en longueur, c'est traversant, comme on dit, parce que ça donne d'un côté sur une petite cour et de l'autre sur une rue. Sur la rue Saint-Roch et surtout sur l'église Saint-Roch avec cette grande horloge bleue qui est tout à fait poétique. On a l'impression d'être à Rome.
On s'installe dans le salon autour de la grande table en marbre, ovale. Autour de nous, un peu partout, des livres, des figurines pixies. Antoine nous raconte que Clint Eastwood a bien connu l'appartement qui appartenait jadis à une danseuse russe. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Coloré.
Coloré?
Ouais.
Pourquoi?
Coloré parce que j'ai un souvenir d'une période où les couleurs avaient beaucoup d'importance. Était assez vive.
Alors, votre père, quand vous avez grandi, il était grand reporter au début, en fait.
Oui, alors il était un peu tout parce que c'était le couteau suisse de la télé. Quand elle a démarré, il faisait aussi bien des sports que de l'actu pure et dure, que des variétés. Et
il voyageait beaucoup.
Il voyageait beaucoup. Ouais. Il était parti avant ma naissance. Il était parti au Groenland pour les expéditions polaires de Paul-Émile Victor. Ensuite, en 56, il est parti en Amazonie. À la recherche d'un explorateur disparu, du fils d'un explorateur disparu, Edgar Maufray. Un peu plus tard, en 62, il est reparti sur son île déserte. Enfin, il ne tenait pas en place.
Ah oui.
Il avait la bougeotte et quand il repassait par Paris, il lui arrivait de présenter le journal de 20h, dont il se faisait assez régulièrement lourder parce qu'il se permettait de faire des commentaires. Ce qui, à l'époque, était déjà... Très déconseillé.
Très déconseillé.
Et c'était bien avant les réseaux sociaux.
Et si vous pensez à cet homme, à ses goûts justement, à ce qui l'intéressait dans la vie, vous diriez quoi?
C'était un littéraire.
Ouais.
C'était un homme pour qui l'écriture avait une importance capitale, qui écrivait. J'ai un souvenir de lui, toujours une plume à la main, en train de gratter d'une écriture de mouche. un journal, des notes, ses reportages, ses commentaires. Enfin, il passait sa vie à écrire. Il était assez, très peu intéressé par le matériel. Ni la gloire, ni l'argent, étaient des moteurs.
Il n'était pas dupe, quoi.
Non, il n'était pas du tout dupe, à commencer par la célébrité.
Ouais.
Enfin, ni ma mère, ni lui, d'ailleurs, n'ont jamais été dupes de ça. Ouais. Mais parce qu'ils envisageaient ce métier comme un artisanat et comme des saltimbanques. Ma mère voulait être comédienne à l'origine. Ouais. Et mon père, lui, venait d'une famille d'avocats de Toulouse et considéré comme le canard boiteux parce qu'il se lançait dans le journalisme. Donc, ils étaient assez détachés, en même temps faisant avec énormément de sérieux leur travail, accusant réception, évidemment, de l'impact qu'il pouvait avoir, parce qu'au début de la télé, c'était deux des têtes les plus reconnues de l'époque. Donc, symboliquement très chargé, mais ça ne changeait rien à leur manière d'être.
Votre mère également journaliste, productrice, elle a fait énormément pour la télé. Ensuite, il y a eu Rendez-vous, cette émission qui était assez célèbre. Après, elle a pris des fonctions aussi. Elle a dirigé les variétés, ouais, la jeunesse, Antenne 2. Enfin, elle a fait Goldorak, Dorothée, tout ça.
Ouais.
Vous diriez quoi si vous pensez à ses goûts?
Ma mère était absolument dingue de comédie musicale. Elle adorait ça. Elle adorait ça. Elle m'emmenait en voir au cinéma. Ça, et le burlesque.
Genre Fred Astaire
Astaire. Non, puis après, toutes les grandes comédies musicales, les Minelli, on a vu des tonnes. C'est comme si ça avait eu une influence sur sa manière d'être, son comportement. C'était une femme qui dansait dans la vie, qui est d'un pas léger, foncièrement optimiste, assez solaire, avec ses zones d'ombre, évidemment, comme tout le monde, mais prenant toujours la vie du bon côté, voilà.
Elle était très passionnée de musique aussi, votre mère.
Oui, elle adorait la musique, très mélomane. Mon père aussi était très mélomane.
Ouais. Mais lui, c'était plus l'opéra, Mozart.
Lui, c'était exclusivement l'opéra, Mozart, ou alors la musique de son temps. Lui, les Rina Ketty et tout, les chanteuses un peu réalistes, atroces, ou Trenet. Trenet, c'était le trait d'union.
Il se retrouvait sur Trenet.
Ah ouais. Ma mère dingue de Trenet, et moi j'ai grandi en écoutant Trenet.
Parce que votre mère, elle aimait plus quoi, la chanson, des choses plus contemporaines?
Ma mère aimait la chanson, elle aimait bien la chanson à texte, elle aimait beaucoup les Brassens, les
Bourville,
Chelon, Ferré, Bourville, ouais.
Et donc chez vous, il y avait beaucoup de musique? Enfin, c'était.
Il y avait de la musique, presque en permanence. Mais ce qui fait que quand moi je suis arrivé avec ma propre musique, à écouter ma musique, et fort, parce que c'est une musique qui s'écoute fort, hein, le rock, en fait ça n'a effrayé personne. On faisait baisser le volume, mais j'avais pas une mère qui arrivait en disant « Qu'est-ce que c'est que ce carnage ?»« Ça, tu m'as arrêté ça tout de suite.
» Et si vous essayez de définir un peu le goût qu'il y avait dans cette maison, qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce qui était important?
J'ai de vrais souvenirs de cinéma et de spectacle du côté de ma mère, parce que, par exemple, j'ai des souvenirs très vifs d'elle reprenant son métier de comédien, entre deux, parce que... Vraiment, la vie de ces gens-là était faite de... Enfin, c'est une vie de saltimbanque, de haut et de bas, quoi.
C'est-à-dire de saison, ça s'arrête
De saison qui s'arrête, d'un seul coup, vous n'êtes plus en grâce avec la nouvelle direction, donc vous retrouvez...
C'est un truc qui vous plaît plutôt, ça, d'ailleurs, de pas savoir ce qui va se passer.
Ouais, j'aime pas trop la sécurité.
Vous avez gardé ça,
J'aime bien. Ouais. Vous me dites, dans 3 ans, je serai là, à tel endroit, à telle heure, je pars en courant. Ouais. Mais donc, oui, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de cinéma... Et je me souviens par exemple d'une pièce qu'elle jouait au théâtre de l'Ambigu, qui était sur les grands boulevards, après le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui a disparu depuis. J'adorais déjà le nom du théâtre,
c'est beau.
De l'Ambigu. où elle jouait une pièce, où elle jouait le rôle d'une vieille dame. L'oiseau de bonheur, ça s'appelait. Et j'ai le souvenir de coulisses de théâtre, enfant, où j'allais voir ma mère vieillie, considérablement vieillie. Avec la magie des coulisses de théâtre, avec cette atmosphère absolument extraordinaire. Quand on est môme, c'est fabuleux, quoi.
Ouais.
C'est vraiment les coulisses, littéralement. On est à côté, on observe derrière des rideaux, on est entre la salle et la scène. Il y avait ça, il y avait le cinéma où elle m'emmenait. À La République, il y avait un cinéma qui passait que du burlesque, des festivals Laurel et Hardy, Chaplin et compagnie, Marx Brothers. On a grandi avec ça. Ou plus près de la maison, un autre cinéma à Neuilly qui a disparu aussi, qui s'appelait Le Régent, où il y avait alors tous les grands films, les péplums, les films, les westerns et Et entre les deux, entre le cinéma et la maison, une petite librairie qui s'appelait Variété, tenue par monsieur et madame Pain, hélas disparu aussi aujourd'hui, qui étaient des libraires absolument merveilleux, extraordinaires, des vrais libraires à l'ancienne, c'est-à-dire à la fois érudits, mais pas une érudition sèche, une envie de transmettre, de partager. Et j'avais dans cette librairie, moi, un compte ouvert. j'avais le droit d'aller me servir en livre de poche. Et j'y allais, j'y passais beaucoup de temps, et je passais beaucoup de temps avec eux, et eux me parlaient, en fonction des livres qui me plaisaient, me dirigeaient vers d'autres pistes et tout. Donc c'était un moment très important.
Ça. Donc ouais, quand même, beaucoup de culture, quoi, dans votre famille, enfin, de partage
oui,
autour de ça.
Mais une culture assez légère.
Ouais,
une culture,
ouais, ouais.
Pas une culture universitaire, pas une culture trop cérébrale. Une culture
mais de l'amusement aussi.
Liée au plaisir, au divertissement.
Ouais, ouais. Ouais. Il y avait un plaisir de manger chez vous, d'ailleurs?
Alors, du côté de mon père, pas du tout. Non, c'était un asset.
Ah ouais,
il se contentait vraiment de très peu de choses.
Ouais.
Il s'en foutait, en fait.
Ouais.
Ça n'intéressait pas.
Pas que ça prenne de temps, quoi.
Non, voilà. Mm. Et ma mère aussi, pareil, je me souviens d'une tranche de jambon sur un coin de table. Et exceptionnellement, quand il y avait un dîner à la maison, là, elle mettait les petits plats dans les grands. Et elle préparait un crabe cocktail. Mm. La chair de crabe... mélangé à une sauce cocktail, mayonnaise, Worcester sauce, ketchup, citron, etc. Ouais. Et voilà, et ça c'était mon délice.
Ouais. Alors le crabe, ben voilà, enfin, il y a un autre goût, odeur, lieu important dans votre enfance, c'est Trouville.
Oui. Alors Trouville, c'est un lieu fondamental pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'y suis allé très tôt.
Ouais.
Je commençais à y aller, je devais avoir 3 ans. Et nous y retournions tous les étés. Dans la même maison. À l'époque, vous savez, on louait les maisons pour la saison, c'est-à-dire ça incluait les vacances de Pâques, et puis l'été, juillet, août. On partait à Trouville dans la petite Fiat 500 de ma mère, c'était une expédition à chaque fois. Il n'y a pas l'autoroute, hein. Il y a l'autoroute juste jusqu'à Passy-sur-Eure. Et on passait, moi, 15 jours à Pâques, et puis un mois complet en été. Et après, je partais avec mon père. Cette maison-là, qu'on retrouvait tous les ans, la même maison, appartenait à un vieux Trouvillais, qui était un type absolument merveilleux, qui s'appelait Marcel Joly, un ancien résistant, un ancien ingénieur EDF, un type merveilleux, quoi, qui connaissait son pays, qui vénérait son pays, et qui avait fait de moi son petit-fils adoptif. Son fils, à lui, était parti, était en mauvais terme, à cause d'une histoire de femme, je sais pas quoi. Et donc, j'étais le remplaçant. Et j'étais vraiment devenu son petit-fils. Mmh. Qui l'emmenait faire de grandes balades, il m'apprenait à pêcher, il me racontait l'histoire du pays, il me racontait ses histoires de résistance, ses histoires de merde, il allait bourlinguer à travers tout le monde
entier. C'était important pour vous, cet imaginaire-là,
ouais,
et puis pas que l'imaginaire d'ailleurs, la mer, quoi.
Oui, la mer, et puis la couleur, la lumière de Trouville, la lumière de toute la baie de Seine, qui était rendue célèbre par des peintres, mais... et qui est un endroit assez unique auquel, à chaque fois que j'y retourne, j'ai le même genre d'émotion. Notamment, quand vous vous promenez à Trouville en fin d'après-midi, en automne, quand tous ces grands manoirs sur la mer sont fermés, là, j'ai l'impression d'être dans un temps où il n'y a pas de temps, en fait. Où le temps est aboli, où il y a à la fois des fantômes qui se baladent, tous ces gens qui sont passés par là, toutes ces histoires.
Ouais.
Comme dans un décor intact. Ça me touche toujours autant aujourd'hui.
M, le magazine du Monde présente le goût de M.
Où est-ce qu'on est, Antoine, là ?
Alors, nous sommes dans mon bureau, une grande pièce qui sert de bureau.
Elle ressemble à quoi, cette pièce ? On a un petit canapé, là ?
Un petit canapé avec des coussins, avec des bouquins partout, avec des bouquins entassés dans tous les coins, des petits pixies qui se promènent.
C'est dans votre...
Laurel
Hardy. Qu'est-ce que c'est, ça, voyons ?
Alors, c'est une photo de Hardy en train de mordre le doigt de Stan, sous le regard indifférent d'un petit chien qui est assis entre eux. Et c'est deux idoles absolues, Laurel et Hardy, oui.
Vous adorez ?
Parce que j'adore le principe des duos, déjà, le travail en duo. Et surtout, je trouve que ils sont absolument géniaux dans leur mécanique. Quand vous regardez les moyens-métrages de Laurel et Hardy qui durent une douzaine de minutes, il y a une espèce de mécanique de destruction qui s'applique à chaque fois, où ils partent dans un décor, et 12 minutes après, le décor est anéanti. Et j'adore Laurel et Hardy.
Il y a Johnny Cash aussi. Ouais.
Il y a Johnny Cash. Non, bah, juste parce que j'aime cette photo de Johnny Cash.
C'est quelques gens dans
votre
bureau, ici.
Ouais, c'est des gens que j'aime bien.
Johnny Ramone.
Voilà.
Elvis.
Ouais. La peau.
Pinocchio.
La peau, là-haut.
Napoléon.
La peau sous forme de bougie.
Gaston,
Gaston avec son tube de couleurs qui jaillissent. Petite photo avec Popol.
Ah ouais.
Ah bah oui, important ça quand même.
Ouais. Paul McCartney.
Des souvenirs quoi, des choses qui me tiennent à cœur.
Et vous, si vous pensez à vous, Antoine, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous, vous diriez ?
Bah, l'écriture a beaucoup d'importance, assez tôt.
Ouais.
Donc l'écriture...
La lecture ou l'écriture ?
Les deux. Je me suis mis à écrire très tôt.
Ah ouais ? Vous écriviez quoi ?
J'écrivais des nouvelles. J'avais 12-13 ans.
Ouais.
Plus tôt, c'était la lecture, et la lecture, ça a été un peu contraint et forcé, parce que j'avais pas très envie de lire. Puis mon père tenait absolument à ce que je lise Robinson Crusoe. Il s'était fait une fixette là-dessus. Mmh. Donc j'ai fini par lire Robinson Crusoe, qui n'est pas un livre qui m'a d'ailleurs bouleversé. Mais ça a été une porte d'entrée quand même. Ça a ouvert sur Stevenson, sur Dumas, sur toute cette littérature d'action.
Voilà. D'aventure.
Ouais, d'aventure.
Ouais.
Où il se passe quelque chose, quoi. Ça a été important. Le cinéma a été important, pour les raisons que je vous disais plus tôt. J'ai vu beaucoup de films très tôt. La musique aussi. Et moins l'image. Moins l'image, moins la peinture, le dessin. Encore que j'étais un lecteur frénétique de toute la bande dessinée de l'époque. Très tôt, hein, à l'époque de Tintin, Jean-Luc Tintin, Spirou, après Pilote. Non, j'avais besoin que ça bouge, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de que ce soit vivant. Ouais. Et par exemple, un de mes premiers grands souvenirs, et là je suis très ému parce que je vais retourner voir la pièce qu'il remonte à la Comédie Française là, au mois de décembre, qui est le Cyrano de Bergerac.
Avec Laurent Lafitte ?
Oui. En fait, c'est mon...
Et Jennifer Descartes. Ouais.
C'est la première fois que je suis allé au théâtre pour voir Cyrano, j'avais 9 ans ou 10 ans, avec Jean Piat. J'ai été bouleversé par ça. Il y a vraiment un avant et un après.
Par le texte,
par le Cyrano, texte, par l'émotion, par la beauté de l'histoire, par l'interprétation de Jean-Pierre qui me semblait confiné au sublime. En même temps, c'était ma première expérience de théâtre, et dans ce théâtre extraordinaire, hein, qui est le Français à Richelieu. Ça, c'est des souvenirs très prégnants.
Vous parliez de porte d'entrée quand vous parliez de Stevenson pour la littérature. Dans vos goûts, on a l'impression qu'il y a vraiment comme ça des éclaireurs qui ont ouvert des portes.
Ah oui, bien sûr.
Et ensuite, il y a une arborescence.
Moi, c'est un auteur qui m'amène à un autre, qui m'amène à un autre, toujours. Et par exemple, il y en a un qui a eu une importance folle aussi, c'est Frédéric Dard. Frédéric Dard, parce que c'était une littérature très transgressive pour un jeune ado, et pour des adultes aussi confirmés, parce qu'on lisait Frédéric Dard en cachette dans les trains, vous savez, on dissimulait ça derrière un journal, ou un bouquin, je ne sais pas, la phénoménologie de l'esprit de Hegel.
Par exemple. <Ouais. rire>
non, mais plein de gens m'ont raconté des histoires avec Frédéric Dard et San Antonio, et moi, San Antonio, qui était par ailleurs un ami de la famille, mais que je n'avais jamais rencontré, c'est-à-dire que je ne savais pas la tête de Frédéric Dard. Pour moi, San Antonio, enfin Frédéric Dard, il avait la tête de son personnage. Donc je m'attendais à un type un peu balèze, baraqué, beau gosse, avantageux et tout. Oui, et donc pas du tout. Je tombais, quand j'ai fini par le rencontrer, je suis tombé sur un bonhomme, un peu chauve, un peu enveloppé, avec un regard extraordinaire, transparent. Son petit bras fané, là, parce qu'il avait eu un problème à la naissance, donc il avait un bras dont il ne pouvait pas se servir. Donc vraiment très loin de San Antonio, quoi.
Ouais.
Un goût pour le non-sens, pour l'absurde, pour les histoires. J'aime beaucoup dans la manière qu'ont les Anglais de raconter des histoires, le fait que la chute ne soit pas indispensable. Tout tient à la manière de raconter l'histoire.
Ouais.
Vous pouvez rester en l'air. Ne jamais rester collé de manière tragique, dramatique, même si c'est de cette manière-là qu'on vit les choses, quoi. Toujours avoir la délicatesse de faire le pas de côté. Ouais.
Bon, l'Angleterre, c'est aussi, j'imagine, connecté à votre passion pour la musique. Enfin, vous parliez des Beatles.
Sûr, ouais.
Vous aimez toujours les Beatles ?
J'aime toujours autant les Beatles.
Ouais. Vous sauriez dire ce qui vous a autant plu chez eux ?
Alors, j'ai eu la fameuse expérience, mon chemin de Damas, où j'assiste involontairement à un concert des Beatles.
La première partie de Sylvie
Vartan. À l'Olympia. Ils étaient passés en deuxième partie.
Parce deuxième partie.
Oui, elle avait commencé... Amené là par une amie, la fille d'un ami de mon père, qui tenait absolument à voir Sylvie Vartan. Moi, je connaissais même pas les Beatles, je savais pas qu'ils existaient. Et là, il y a eu quelque chose s'est passé. Je trouvais que c'était une perfection. Une espèce de boule d'énergie, d'enthousiasme, de bonne humeur, parce qu'il y avait, c'était très joyeux, en fait.
Oui, aussi,
ces petits concerts des Beatles. Ils s'amusaient beaucoup, ils étaient heureux d'être là. Ils étaient pas là à tirer la gueule. Et je suis ressorti, mais bouleversé par ça. Et de ce jour-là, c'est une passion qui a résisté à tout, quoi. Oui. Au temps, aux modes. Quand je réécoute les Beatles aujourd'hui, ce qui m'arrive très, très souvent, j'y découvre à chaque fois de nouvelles choses. Des choses qui, pourtant, j'ai l'impression d'avoir étudié et épuisé le sujet, comme avec Napoléon.
Oui.
Ben non.
Alors, vous avez aussi beaucoup écrit, interviewé Bruce Springsteen. On sait que vous avez une passion pour lui.
Ouais.
Quand vous parlez de lui, en fait, dans Perso, notamment dans votre autobiographie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui condense un peu votre goût aussi, c'est-à-dire ce qu'il incarne. C'est-à-dire, il y a une grande humanité, il y a du lyrisme, il y a quelque chose de très social aussi.
Ouais.
Enfin, je trouve, ça me fait penser au livre de Nicolas Mathieu. Enfin, il y a un pont dans ces deux choses. C'est que vous aimez beaucoup Connemara. Springsteen, essayez de me raconter, qu'est-ce que vous aimez tant chez lui ?
Au tout début de Springsteen, il y a un album, celui sur lequel je tombe, c'est le deuxième, Street Shuffle. Et je sais pas, il y a quelque chose dans cette musique qui est une alternative à ce qui se passe en Angleterre, où le rock est devenu soit progressif, soit punk ou post-punk. Là, il y a quelque chose d'extrêmement construit qui est dans la tradition américaine et qui est en même temps une réinterprétation assez flamboyante. Ça m'intéresse. Deux années plus tard, je démarre ma première émission, Chorus, et je cherche partout des traces de Springsteen. À l'époque, il n'y avait pas de clip, ça n'existait pas. Et je cherchais partout à montrer du Springsteen, et j'ai fini par tomber dans les caves de la maison de disques qui l'ignorait elle-même, qu'elle possédait le document, un film 16 mm d'un morceau tiré d'un concert qui s'appelle Rosalita. Je le passe une semaine sur deux ou une semaine sur trois, quoi. Enfin, à dose répétée. Et avec l'idée de, maintenant que j'ai franchi cette étape, je voudrais le rencontrer, je voudrais l'interviewer. Donc je commence à envoyer à son management, à John Lando, tous les lundis matins, à Telex, me présentant, disant voilà, je fais une émission de rock toutes les semaines, je voudrais interviewer Bruce, ou est-ce qu'on peut venir le tourner? Bon. La réponse tous les lundis était non. Non, non. Mais c'est devenu comme un jeu à la fin. Je pense qu'il aurait de quoi faire éditer un petit livre avec tous mes Telex. Bien plus tard, ça a été oui. Mais entre-temps, moi, j'étais devenu ami avec un chanteur new-yorkais qui s'appelle Garland Jeffries, qui me dit un jour, je vais le voir en concert, là, il passe au Madison Square Garden. Si tu viens, je t'emmène et je te le présente. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai cassé la tirelire, je suis sauté dans un charter et je suis parti à New York voir Bruce. Et c'était un moment absolument extraordinaire parce que c'est le premier concert d'une série de 6 au Madison. Et pendant tout le concert, il tire un peu la patte, il boitait, enfin, on le sentait embarrassé par une jambe. Et à la fin du concert extraordinaire qui dure 3h30, 4h, avec une salle, mais en ébullition, en effervescence. Moi, dans un état d'émotion, vraiment un choc encore plus puissant que celui des Beatles à l'Olympia. Là, vraiment une espèce révélation. C'était le spectacle total, quoi. La musique, la scénographie, lui, ce que ça raconte, comment ça le raconte. C'était absolument fabuleux. J'ai retrouvé ça plus tard qu'avec Prince, ce niveau de perfection sur scène. Et donc, il m'emmène dans les loges, moi je suis là tremblant comme une pauvre feuille en automne, et Bruce, quand on arrive dans la loge, est allongé sur une civière. Et un médecin lui a découpé sa botte au ciseau et est en train de lui faire des injections dans une cheville. Il avait une entorse. Bon. Et là, Garland me présente et lui dit « Voilà, c'est Antoine, il est venu de Paris pour voir le concert et il est venu exprès. » Et Bruce se lève, claudiquant, il vient vers moi, il me prend dans ses bras, ému, mais sincèrement ému, qu'un môme puisse avoir fait tout ce voyage. On parle des années, tout début des années 80. Ouais, c'était plus compliqué. Quoi. Tout ça, juste pour venir le voir lui, et ça l'a touché à un point dingue. Et voilà, ça a été la première rencontre, la première pierre posée dans cette relation, qui avec le temps est devenue un compagnonnage, voilà.
Ouais. Pour Springsteen, c'est vraiment une écriture. Enfin, il y a une écriture aussi qui est incroyable. Quand je relisais, avant de vous rencontrer, le Perso, entre autres, on voit à quel point l'écriture, c'est fondamental dans tout ce que vous avez fait, finalement. Ouais. Même à la télé, parce qu'on ne se l'imagine pas forcément. Mmh. Ensuite, je pense à même l'époque Nulle Part Ailleurs, quand vous incarnez tous ces personnages. Mmh. C'est écrit au cordeau. Tout ce que vous avez fait est toujours écrit, avec Laurent Chalumeau, qui est important, Albert Allgood. Mais l'écriture, c'est fondamental. Enfin, c'est ce qui relie tout ce que vous avez fait.
C'est le socle. Moi, sans écriture, je ne peux pas avancer. Et je continue, là, je fais une émission en ce moment, il faut voir, là, sur le cinéma. Tout est écrit. J'ai besoin que l'écriture soit là pour après pouvoir m'amuser avec, quitte à l'oublier complètement.
Oui.
J'ai besoin d'écrire les mots, j'ai besoin de trouver les mots. Ouais. Pour après pouvoir les m'en dégager.
Ouais. Justement, là, j'évoquais l'époque nulle part ailleurs. Quand vous en parlez, vous dites toujours une parenthèse enchantée. Enfin, c'est l'époque Canal Plus de greffe. Enfin, là, je pense que quelqu'un qui est important aussi.
Oui, bien sûr.
Ouais,
c'est toute la bande Lescure de greffe.
Très important, Alain de greffe.
Oui, un goût très important. Ouais. Un homme de goût, oui. Comme Pierre, comme Lescure. Si vous voulez, la différence à ce moment-là, c'est que je me retrouve à travailler avec des gens sous l'autorité de gens de télévision qui connaissent la télévision parce qu'ils l'ont travaillé, ils l'ont pratiqué.
Oui, de Graff, il a été monteur.
Il était chef d'atelier. Pierre était journaliste. Il présentait des journaux. C'est un mélomane averti. Bon. Et donc, ça change le rapport considérablement parce que ça n'existe plus, ça, déjà. Des gens qui viennent de la télévision et qui s'occupent de la télévision. Maintenant, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ils viennent des milieux d'affaires, de l'industrie, oui. du marketing, mais voilà, des gens qui viennent du terrain et avec qui vous avez en partage et en commun ce goût et cette histoire et cette envie de faire autre chose que ce qui a été fait précédemment. Oui. Donc ça change tout. Et puisqu'on parle de goût, bah oui, nous partagions les mêmes goûts. En matière de cinéma, en matière de littérature, en matière de musique, en matière plastique. C'est en matière plastique. C'est
bien. D'art plastique.
En matière d'art plastique, je voulais dire, ouais. En matière plastique. Oui, on est de la même génération, les fameux boomers, là.
Ouais.
Les odieux boomers. Donc, on a grandi avec toute cette pop culture, on résume ça.
Et à cette époque, vous justement, donc sur Nulle part ailleurs, on se souvient très bien, donc avec José Garcia entre autres, donc vous incarnez toute une ribambelle de personnages. Ça a développé un goût chez vous, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le goût du rôle, de la fonction, du fait de tenir un rôle?
Ah ben oui, mais je pense même que je passe ma vie à tenir un rôle et à jouer des rôles. Et on en est tous là. Hein. On joue tous à être quelque chose ou être essayer de s'approcher d'un personnage.
De plusieurs.
Oui, ou de plusieurs, bien sûr. Alors moi la liberté que m'offre mon métier, c'est que justement, je peux j'ai une palette qui me permet d'écrire un livre si j'ai envie, de jouer un rôle, de jouer un maître de cérémonie, parce que c'est aussi un rôle.
Ouais.
Et donc à chaque fois, la partition change un peu. Mais le plaisir très très potache qu'on avait à l'époque de Nulle part ailleurs avec ces personnages outrés et délirants, c'était un pur plaisir, ça.
Ouais.
Oui, parce que c'est le principe même de la comédie, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, moi c'est un personnage qui joue, c'est pas moi. Enfin, c'est moi qui joue le personnage, mais
c'était votre préféré?
Didier Lambrouille.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Pourquoi?
Parce que c'est mon double astral. C'est je suis exactement comme Didier.
Ah ouais.
Je peux être très vindicatif, très vite, très grande gueule, pas du tout les moyens de ma violence. Et il m'amuse beaucoup, Didier.
Ouais. Et de toutes les émissions de télé que vous avez faites, vous en faites encore, laquelle vous ressemble le plus?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, dans chaque émission,
Il y a un peu de vous.
Oui, il y a un peu de moi. C'est peut-être la somme de tout ça qui peut ressembler. Je sais que la dernière série, la Gaule d'Antoine, où je partais à la découverte de régions et et à la rencontre de personnages un peu hors clou, bizarres, avec des manières de penser différentes et tout, à travers toute la France, ça a été un moment absolument génial parce que j'ai fait beaucoup de télévision, donc j'ai fait de la télévision de plateau. Télévision que j'aborde aujourd'hui, que je ne referai sous aucun prétexte.
C'est vrai?
Ah oui, hors de question.
Oui.
Télévision de plateau, assis autour d'un plateau avec des invités, du public, des jingles.
Vous avez fait le Grand Journal pendant 2 ans.
Oui.
Mais ça, c'est pas une expérience que vous avez aimé ça.
Non. J'ai pris du plaisir à le faire par moment, mais c'est pas du tout ma cam. En revanche, sortir des plateaux et aller à la rencontre des gens sur leur terrain, dans leur biotope et s'amuser avec eux, passer du temps avec eux. Parce que c'est
ça vous plaît?
C'est ça l'essentiel. Passer du temps. Ne pas traiter les choses en coup de vent, en 10 minutes, c'est plié.
Ouais.
Oui, ça a tout changé. Puis alors, on s'amusait, quoi.
Ouais.
On s'amusait, et avec ce souci, mais c'était déjà le cas avec les personnages de Nulle part ailleurs à l'époque, ne jamais rire aux dépens de l'autre.
Mais avec.
Ouais.
Toujours.
Avec.
Ouais.
Toujours avec. C'est-à-dire ne jamais profiter ou abuser de la situation qu'offre la télé. Parce que vous êtes toujours en position de force quand vous venez. Vous êtes vous le gars de la télé qui vient voir le malheureux en face, qui est pétrifié comme un lapin dans les phares.
Même par rapport aux invités sur un plateau.
Oui, tout à fait.
M. Le goût. de M.
Venez, on va dans la cuisine.
Allez.
Attends, vos auditeurs vont avoir l'impression qu'on vit dans un palais, là.
Avec toutes les accréditations de presse,
oui, hein, hop, je sais pas pourquoi. Ça,
c'est de la collection.
Ah, mais pas du tout.
Non.
Je sais pas pourquoi, j'ai pris le geste un jour de les accrocher. Attendez, ce que je peux vous montrer, c'est... Ah, ici. Ah, cette photo. Voilà. Et cette photo, j'y tiens énormément.
Ouais. Elle est magnifique.
Elle est belle, hein.
Ah ouais.
Alors, c'est une photo qui représente Jean Rochefort et Charlotte Rampling dans les bras l'un de l'autre, nus. Enfin, en tous les cas, c'est très pudique, hein. C'est cadré.
Le haut du corps, en tout cas, voilà.
Et j'avais pour projet d'en faire l'affiche du film Des Accords Parfaits, que j'avais tourné avec eux il y a une vingtaine d'années, et ça a été refusé.
C'est votre goût, ça, chacun des deux noms, à la fois Jean Rochefort, très important, et Charlotte Rampling aussi.
Évidemment. Ouais. Ouais. Oh ben là, c'est l'entente cordiale. Hein. On est en plein dedans. Là. Non, mais Jean, évidemment, c'est un modèle.
Qu'est-ce que vous aimiez chez lui?
Son côté enfantin. C'est vraiment un môme. Un môme extrêmement éduqué, intelligent, une maîtrise extraordinaire du langage. Mais un môme. Et Charlotte, c'était... évidemment, comme tout le monde, j'ai eu le coup de foudre à l'époque de Portier de Nuit. Voilà, c'était un couple que je rêvais de rassembler, ouais, à l'image. Ils n'avaient jamais joué ensemble, curieusement. Et c'était un couple qui me semblait parfait, quoi.
Là, il y a plein de BD aussi.
Là, il y a de la BD.
Toujours amateur, ouais.
Il y a ce que je garde de BD, parce que j'en consomme pas mal. Donc j'en dégage aussi pas mal. Il y a des invendus, si vous voulez, si ça vous intéresse. Dictionnaire amoureux du rock, s'il y a des amateurs. C'est ma petite caverne d'Ali Baba ici. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour le boulot ou des choses qui s'entassent en me disant je verrai ça plus tard. C'est lié au travail. C'est très différent de la maison.
Ouais.
C'est deux endroits.
Et chez vous, les objets, ils sont importants ou pas vraiment?
Non, je m'en fous un peu. Là, les objets qui comptent chez moi, si j'ai une petite, un petit Sempé, le petit Nicolas de Sempé en bronze, Pixie évidemment.
Ah, ça y est, on y
vient. Bah oui, qui me sert de... qui est un objet qui me rassure. C'est le dernier que je vois en m'endormant, c'est le premier que je vois en me réveillant.
Ouais.
En dehors de mon épouse, bien sûr.
Non, je n'ai pas comparé ma femme à une épouse, ne me regardez
pas comme ça.
Non, alors vous venez de sortir un livre, là, justement, sur les petites figurines Pixie. Qu'est-ce qui vous a plu, alors? Donc les Pixie, on va expliquer ce que c'est des petites figurines en plomb.
C'est des petites figurines en plomb éteint, de 8-10 cm à peu près, qui représentent soit, dans un premier temps, des personnages de la vie quotidienne, Alexis Poliakov appelle les civils,
ouais,
puis dans un deuxième temps, des créations de la mode, puis le défilé du 14 juillet 89 de Good, voilà, miniaturisé, et puis après, des personnages de bande dessinée. Commencer par Tintin, parce que Alexis Poliakov, qui est donc le créateur de Pixie, enfin l'initiateur, parce que son beau-fils, Philippe-Antoine Guénard, a un rôle capital dans le développement de l'histoire. Alexis était le fils donc de Serge Poliakov, célèbre peintre abstrait des années 50-60. L'art de Poliakov plaisait beaucoup à Hergé, qui collectionnait les Poliakov. Et donc il y avait une passerelle comme ça entre Hergé et Poliakov, et le jeune Alexis, et il a donc demandé à Hergé l'autorisation de faire des séries de Tintin. Voilà, ça a donné lieu à une collection de personnages, riche aujourd'hui de milliers de créations, je ne sais même plus combien il y en a tellement, c'est absolument incalculable, et élargissant depuis la BD avec Tintin, ensuite avec les licences, c'était avant que les licences de para-BD voient le jour, avec des Franquin, avec Peyo, avec Maurice. Bon.
Et vous, c'est quoi votre plaisir? Le plaisir Pixie pour vous, qu'est-ce qui vous plaît?
Je me promenais un jour devant, à côté de la Comédie Française, hein, qui est vraiment décidément un lieu magnétique. Il y a une petite boutique qui s'appelle Les Drapeaux de France. Et dans cette vitrine, il y avait pêle-mêle des soldats d'Empire, des chevaliers médiévaux, des guerriers grecs. Et au milieu, Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, avec des œufs de crocodile entre les bras, en train de fuir l'ire vengeresse de la maman crocodile à qui il venait de subtiliser les œufs. c'était totalement incongru, anachronique. C'était tellement étrange.
Il s'est passé quelque chose.
Ouais, je sais pas. Ça m'a tapé dans l'œil.
Ah ouais.
J'ai dit, qu'est-ce qu'il fout là?
Ouais.
J'ai toujours aimé beaucoup Gaston
Lagaffe. Ouais, vous identifiez un petit peu.
Je suis très très proche de Gaston Lagaffe. Ouais. Je suis rentré dans la boutique et j'ai demandé à voir l'objet. Et en le prenant dans ma main, il y a eu un charme qui a opéré. Je sais pas, je pense que c'est la relation entre le poids, vous le sentez quand vous prenez un pixie, hein, c'est du plomb, donc c'est pas, ça pèse un certain poids entre l'échelle, le volume, la perfection du travail. Et j'ai commencé alors à en acheter à droite, à gauche, mais sans besoin frénétique d'en posséder plus que ça. C'était au petit bonheur la chance. Puis j'en ai parlé dans une interview des Pixies, qui me plaisait beaucoup. Et puis un journaliste est tombé là-dessus. Il était très proche des Poliakov et de Guénard. Il m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas quelque chose? C'est pas un article, un petit bouquin. Et puis voilà, ça a germé. Et oui, pourquoi pas. Mmh. Moi, je voulais faire un petit bouquin léger.
Ouais.
Et amoureux, comme le dictionnaire amoureux. En fait, c'est pourquoi ça me plaît tellement, de quoi ça me parle. Et pourquoi j'ai envie de partager ça avec d'autres.
Ouais. Vous avez fait ça tout le temps, en fait, hein, quelque part, d'une façon. Partager vos enthousiasmes, beaucoup.
Ah oui. Ouais, moi, je suis un passeur.
Un passeur, oui.
Un transmetteur, un médiateur. C'est un beau métier. Hein. Non, mais je vous promets. Moi, c'est une des choses dont je suis le plus fier, en fait. C'est quand des gens viennent me voir en me disant merci, grâce à toi, j'ai découvert Bruce, ou les Pixies, ou...
Vous avez un plaisir de ça, de la transmission. Il n'y a pas
absolument
de frustration à se dire,
absolument
je ne suis pas l'auteur.
Ah non.
Enfin, vous avez fait des choses aussi, hein, mais je veux dire, c'est pas...
Non, j'adore passer les choses.
Au cours de votre vie, vous diriez, alors, justement, vous, que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou que vous aimez toujours les mêmes choses?
Il y a un peu des deux.
Ouais.
Je reviens toujours à Stevenson, puisqu'on parlait de littérature, c'est-à-dire que régulièrement, je relis Le Maître de Ballantré, ou je relis du Dumas, Monte Cristo, j'ai toujours un Saint-Antonio qui traîne, un petit coup de cafard, un petit Saint-Antonio et ça repart.
Ouais.
Bruce, ça fait 45 ans que ça dure. Les Beatles, c'est...
Ouais. Mais il y a des nouveaux, il y a des...
Oui, la famille vient s'enrichir, évidemment, au fur et à mesure. Oui, heureusement. En littérature, vous parliez de Nicolas Mathieu.
Ouais,
voilà, Nicolas Mathieu est quelqu'un qui
compte. Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Chez Nicolas Mathieu, c'est... En fait, il est très springsteenien. Il s'intéresse aux gens. Il s'intéresse à l'histoire des gens. Vous savez, on est souvent reproché à Springsteen de parler beaucoup de voitures dans ses chansons. Mais en fait, il ne parle pas de voitures, il parle de ce qui se passe dans les voitures, ce qui est tout à fait différent.
D'accord.
Et Nicolas Mathieu, il y a ça. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve qu'il arrive à toucher une corde très sensible qui, moi-même, alors qu'on n'est pas de la même génération, me rappelle des choses vues, des choses senties au moment de l'adolescence, qui reviennent à la surface très vite grâce à son écriture. Donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup plein de choses. Là en BD, je suis très fanatique du travail de Manu Larsonnet, ou d'un type qui s'appelle Riff Rebs, qui est absolument prodigieux. En fait, j'ai des enthousiasmes. J'ai la chance et le privilège de faire un métier où il m'est offert tous les jours de réactiver cet enthousiasme. C'est-à-dire que le jour où je cesserai d'être curieux, je me poserai de vraies questions.
Ouais.
Alors, je vieillis, vous l'entendez au son de ma voix. Enfin, là encore, je suis très enroué aujourd'hui. Hein. C'est pas ma voix naturelle qui est beaucoup plus cristalline, je tiens à le préciser. Mais je vieillis, donc je rentre dans des âges canoniques où on est plus proche de la fin que du début. Et moi, je suis entouré de gens de mon âge, de ma génération, qui sont encore plus actifs qu'ils ne l'étaient il y a peut-être 20 ans.
Ah oui.
Bah, des Lescure, Ridley Scott, là, que je voyais la semaine dernière, Scorsese, Bruce, McCartney, Jagger, Dylan. Non, mais la liste est longue quand même. Chrissy Hynde, Patti Smith, par exemple Eastwood. Je parlais d'Eastwood tout à l'heure, mais Eastwood, quelqu'un lui a posé la question, comment est-ce que vous faites pour garder cette curiosité, cet enthousiasme intact, cette envie? Il a eu cette réponse merveilleuse, il a dit « il ne faut pas laisser le vieil homme entrer ». Et ça, je trouve ça absolument magique, ça résume tout.
Vous reconnaissez là-dedans?
Ah oui, totalement, totalement. Ouais. Alors le vieil homme, je ne lui fais pas un barrage avec des parpaings. Ouais. Hein.
Vous faites toujours plein de sport?
Oui, je m'entretiens, je fais un peu de boxe.
Vous faites de la boxe? Ouais.
Enfin, je fais de la boxe sur mon sparring, hein. Plus que mon sparring sur moi. Mais,
ouais. Mais ce n'est pas une obsession non plus?
Ah non.
Ce n'est pas Dorian Gray non plus.
Enfin, ah non, pas du tout. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, j'ai la chance d'avoir bénéficié de gènes favorables. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est un...
Mais c'est mental, c'est un état
d'esprit. C'est mental, c'est une question. Vraiment, l'enthousiasme et la curiosité, c'est ce qui vous maintient en vie. Quoi. Mmh. Je me lève le matin, je suis toujours excité par ce qui m'attend dans la journée. Je pense que le jour où ça disparaît, je disparais en même temps.
Quel type de goût vous plaise, Antoine ?
J'aime les couleurs.
Ouais.
Ouais. J'ai une passion pour le bleu.
Ouais.
Pas les parfums qu'on met sur soi, mais j'adore les odeurs.
Ah oui ?
Ouais. Et dans un restaurant italien, il y a un parfum quand vous poussez la porte, ou dans un restaurant japonais. Mmh. Je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à la lumière. J'ai besoin de lumière. J'ai un besoin. C'est vrai, je suis très malheureux là. Toute la période de novembre à février, c'est. Quand on referme le couvercle, là, je suis pas bien du tout. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de... Je suis pas du tout gastronome, je me contente vraiment de très peu de choses.
Ouais. Ouais.
Mais en revanche, je peux être très exigeant sur la qualité d'un détail.
Du peu de choses que vous allez prendre.
Oui, le c'est-à-dire que je peux traverser Paris pour aller acheter une baguette dans telle boulangerie.
Ouais. Précis.
Oui, très précis. Hmm. Je peux faire des détours, de grands détours pour
ça. Ah ouais,
ouais.
Vous avez des dégoûts, vous, ou pas trop?
Oui, j'ai des dégoûts, et j'ai des dégoûts même très nets, des choses que je déteste, qui me répugnent.
Comme ?
Des attitudes. J'ai horreur de la trivialité, mm-hmm. de la vulgarité. Il faut être très prudent quand on dit ce genre de choses, parce que c'est... Mais d'où tu te places pour parler de qu'est-ce qui est vulgaire ? Est-ce que toi, t'es pas vulgaire ? Si, moi, je peux être très vulgaire. Je peux être... Mais j'aimais bien la distinction, le distinguo que faisait Coluche entre le vulgaire et le grossier. Tout dépend de l'oreille, en fait. Tout dépend de qui écoute, et enfin de l'émetteur et du ouais, récepteur. Il y a des trucs qui peuvent être considérés comme d'une vulgarité, un signe. Bah, on revient à Saint-Antonio, hein. Saint-Antonio qui, pour l'instant, traverse un purgatoire terrible, parce que alors, lui, il coche toutes les cases de ce qu'il faut pas dire et pas... Mais ça passera, c'est cyclique. Mais oui, c'est bon, c'est toujours très relatif tout ça. Mais moi, l'idée de la vulgarité, je crois que c'est lié à une attitude, oui, à une morale.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous trouvez vulgaire ? Qu'est-ce que vous appelez vulgaire, vous ?
Beaucoup de choses dans le monde tel qu'il est, et tel qu'il est représenté aujourd'hui, dans les médias, dans cette recherche effrénée du succès, de la reconnaissance, le manque d'égard, le manque d'humour.
Est-ce que vous trouvez comme... Justement, là, récemment, je suis allée voir Valérie Le Mercier pour ce podcast, et elle disait qu'elle place le drôle au-dessus de tout.
C'est-à-dire,
elle dit, moi, je m'en fiche, je peux faire 5 minutes de sketch dans une émission de télé qu'on va trouver moyenne. Si je fais rire, ça sera supérieur à
ouais,
tout, pour
ouais,
moi.
Ouais,
ouais, le drôle est au-dessus de tout.
Bah, le drôle, ça vous permet de toucher la note bleue, quoi. C'est-à-dire, il y a une grâce avec le rire. Alors, il ne faut pas que le rire soit gras lui-même, mais il y a une vraie grâce avec le rire. Quand vous arrivez à faire rire, il n'y a rien de plus difficile. Hein. C'est tous les gens qui font ce métier vous diront la même chose. C'est très facile d'émouvoir, tirer les mouchoirs, mais faire rire et garder la note tenue...
Oui, la note bleue.
C'est ce qu'il y a de plus... Ouais.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût, Antoine ?
Bah, ils ont le bon goût d'être mes amis, déjà, pour commencer.
Ouais.
Et moi, d'être le leur. Oui, bien sûr, on
partage des choses.
Il faut partager, évidemment, plein de choses, avoir plein de choses en commun pour être amis.
Ouais.
Quitte à garder la différence, hein, évidemment, mais oui, mes amis sont des gens en qui j'ai un... par exemple, j'ai une amie, qui est une designeuse qui s'appelle India Madhavi, qui a un goût irréfutable.
Mmh.
Voilà. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas j'aime pas, non. C'est irréfutable. C'est magnifique ce qu'elle fait, c'est juste ouais. magnifique. Dans son association des couleurs, des formes, bon. Franquin, je pense à Franquin parce qu'on ouais. parlait de Gaston tout à l'heure. Franquin est irréfutable. Il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus de discussion. Comme Titien est irréfutable, comme. Donc j'aime bien ça, j'aime bien par moment être conforté dans mes goûts par l'assurance que j'ai pas tapé à côté quoi.
Ouais. Et est-ce sûr. Que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût ?
Non.
Faut partager ça aussi. Ou
ah
des
oui,
choses.
Oui, c'est un socle minimal, ouais. Ouais.
Alors ça serait quoi pour vous, Antoine de Caunes, avoir du goût ?
En fait, c'est des petits moments, des petites épiphanies où d'un seul coup, en voyant quelque chose, en écoutant quelque chose, vous avez la conviction intime que oui, c'est ce qui est en phase avec vous, ce que vous déterminez donc comme étant du bon goût, en tous les cas, votre goût à vous. Ouais. Et j'ai l'impression qu'avec les années qui passent, c'est quelque chose qui s'affine de plus en plus et qu'on va de plus en plus à l'essentiel, en évitant les chemins de traverse qu'on a pu emprunter avant.
C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal. Pour M, le magazine du Monde, on se retrouve le 12 janvier. D'ici là, bonne fête de fin d'année.